Chapitre 16. Filament en strate. Je suis ton public rêvé, Hans, quand l'enregistrement recommença. Tu n'auras jamais de spectateur plus attentif. Et tu l'as bien rendu, Hans. Je le sais parce que je rêve ces souvenirs. Je vois à quel point tu t'en es approché. Oui, tu les as filmés. Le trajet, la construction des murs, la longue spirale pour entrer. Ils adoraient les murs, n'est-ce pas? Le labyrinthe de sang familial. Le dédale suspendu dans le vide qui annonçait « Nous sommes à l'intérieur. Ce qui est dehors est autre. Nous demeurerons ici à jamais. » Et les ténèbres régnaient depuis le début. Tu les as trouvées à plusieurs reprises dans les yeux de Marie-France. Tu les as captées dans un lent zoom sur les orbites assombries du crâne. Assez vite, elle n'a plus voulu qu'on la filme. Tu as travaillé avec ce que tu avais. Tu as orienté ton image. Tu l'as fait pivoter sous plusieurs éclairages, plusieurs ombres. Tu as créé des répliques, cartographié son crâne en quadrillage de néon. Tu t'es servi de programmes spéciaux pour vieillir ces photos selon les modèles statistiques, de systèmes d'animation pour faire naître une Marie-France plus âgée. Tu as réduit son image à un nombre de points gigantesques, mais pas infinis, et tu les as agités pour que de nouvelles formes émergent. Et tu as choisi celle qui semblait te parler. Puis, tu t'es occupé des autres, d'Ashpool et de la fille dont le visage encadre ton œuvre. La première la dernière image. Le deuxième visionnage consolida ses connaissances sur leur histoire et lui permit de placer les fragments de Becker dans une chronologie qui débutait avec le mariage de Tessier et d'Ashpool. Une union qui, à l'époque, avait surtout fait parler d'elle dans les médias financiers. Tous les deux avaient hérité d'un empire conséquent, Tessier d'une fortune familiale fondée sur 9 brevets de biochimie appliquée et Ashpool de la grande entreprise d'ingénierie de Melbourne, qui portait le nom de son père. Il s'agissait autant d'un mariage que d'une fusion aux yeux des journalistes, même si la compagnie qui en acquit fut considérée par beaucoup comme monstrueuse, une chimère à deux têtes complètement différentes. Mais il était alors possible, sur les photographies d'Ashpool, de voir l'ennui disparaître, remplacé par une absolue détermination. Cela ne lui seyait guère et lui donnait même un côté effrayant. Le visage sévère et charmant devenu encore plus dur, impitoyable. Au bout d'un an de mariage avec Marie-France Tessier, Ashpool s'était débarrassé de 90% des actions de son entreprise et avait réinvesti dans des propriétés orbitales et des équipements de transport. Et le fruit de leur union, deux enfants, frères et sœurs, se trouvait en gestation chez des mères porteuses dans la villa de Marie-France. À Biarritz. Tessier et Ashpool montèrent jusqu'à l'archipel en orbite haute pour n'y trouver que des stations militaires et les premières usines automatiques des cartels sur l'écliptique. Ils commencèrent alors à bâtir. Leur fortune combinée au départ couvrait à peine le coût d'un seul module de construction de semi-conducteurs d'Ono Sendai en orbite. Mais Marie-France se découvrit des talents inattendus et prit une initiative audacieuse. Elle monta un centre de données qui amassait des profits considérables en répondant aux besoins de secteurs de la communauté bancaire internationale à la mauvaise réputation. Ce qui créa des liens avec les banques et leurs clients. Ashpool emprunta beaucoup. Et le mur de béton lunaire, qui deviendra Freeside, grandit et s'incurva pour englober ses créateurs. Lorsque la guerre démarra, Tessier et Ashpool se trouvèrent derrière ce mur. Ils virent Beaune exploser et disparaître, puis Belgrade. La construction de la tige continua sans grosse interruption pendant ces 3 semaines. Plus tard, pendant des décennies médusées et chaotiques qui suivirent, tout ne serait pas aussi simple. Les enfants, Jean et Jeanne, vivaient désormais avec eux, la demeure de Biarritz ayant servi à financer la construction d'installations de stockage cryogénique pour leur foyer, la Villa Straylight. Les premiers occupants de la chambre forte furent 10 paires d'embryons clonés. Tout Jean et tout Jane, Free Jean et Free Jane. Plusieurs lois interdisaient ou régulaient la duplication artificielle du matériel génétique d'un individu. Mais de nombreuses questions de juridiction entraient aussi en ligne de compte. Elle arrêta la lecture et demanda à la maison de revenir à la scène précédente. Des photographies d'une autre installation de stockage cryogénique construite par les fabricants suisses de la chambre forte des Tessier Hachepoul. Elle savait que Baker avait vu juste en les estimant semblables. Ces portes circulaires de verre noir aux finitions de chrome étaient les visions centrales des souvenirs de l'autre, puissantes et totémiques. Les images redémarrèrent dans la construction en apesanteur des structures de la surface interne de la tige, l'installation du système d'énergie solaire de l'ado à caisson, puis d'une atmosphère et de l'apesanteur rotationnelle. Baker s'était retrouvé avec l'embarras du choix. Des heures de documentation bien produites. En réaction, il avait créé un montage sauvage et saccadé qui évacuait le lyrisme superficiel du matériau original et isolait les visages tendus et épuisés des travailleurs au milieu d'une ruche frénétique de machines. Freeside se verdissait et se couvrait de fleurs en une avance rapide d'aube et de crépuscule synthétique, une terre luxuriante et close parsemée d'étendues d'eau turquoise. Pour l'inauguration, Tessier et Hachepoul émergeaient de Strelight, leur complexe secret au bout de la tige, sans grand intérêt pour le pays qu'ils avaient construit. Baker ralentit alors et reprit son analyse obsessionnelle. Ce serait la dernière fois que Marie-France apparaîtrait devant une caméra. Baker explorait les angles de son visage dans une fugue torturée et prolongée, le mouvement de ses images en contrepoint exquis aux montées sinueuses de l'arsène qui revenait claquer à travers les parasites plus ou moins forts de sa bande-son. Angie ordonna une nouvelle pause, se leva du lit, s'approcha de la fenêtre. Elle ressentait une certaine allégresse, une sensation inattendue de force et d'unité intérieure, comme 7 ans plus tôt, dans le New Jersey, quand elle avait appris que d'autres connaissaient ceux qui venaient dans ses rêves, qu'ils les appelaient les Loa, les cavaliers divins, qu'ils leur donnaient des noms, les invoquaient et négociaient avec eux pour obtenir des services. Même alors, tout n'était pas clair. Bobby prétendait que l'Inglesou qui chevauchait Beauvoir dans l'UFO et le Linglesou de la Matrice étaient 2 entités différentes, et encore, si le premier existait bel et bien. « Ils font ça depuis 10 000 ans, disait-il, danser et devenir dingue. Mais ces trucs ne sont dans le cyberespace que depuis 7 ou 8 ans. » Bobby croyait les vieux cow-boys, ceux à qui il payait des verres au gentleman loser chaque fois que la carrière d'Angie le conduisait dans l'étendue, qui confirmait que les Loa n'étaient arrivés que récemment. Les hackers expérimentés se souvenaient d'une époque où seuls les nerfs et le talent décidait de la réussite d'un artiste de l'interface, même si Beauvoir aurait répliqué qu'il fallait tout de même pactiser avec les Loa. « Mais ils viennent me voir, » avait-elle répliqué, « sans que j'aie besoin d'une interface. » « C'est ce que tu as dans la tête, ce qu'a fait ton père. » Bobby lui avait raconté que la majorité des vieux cow-boys s'entendaient pour dire que tout avait changé un jour, même s'ils n'étaient pas d'accord sur le quand et le comment. Il l'appelait le jour où tout avait changé. Et Bobby avait emmené Angie déguisée les écouter aux losers, sous la protection rapprochée de gardes du corps de Sensenet qui n'avaient pas le droit d'entrer. Le fait que la sécurité soit empêchée de pénétrer dans l'établissement l'avait davantage impressionné que la discussion à l'époque. Le gentleman loser était un bar de hackers depuis la guerre, qui avait donné naissance à la nouvelle technologie, et il n'existait pas de milieu criminel plus sélect dans l'étendue. Même si, à l'époque de la visite d'Engie, nombre d'habitués s'étaient retirés des affaires. Les jeunes prodiges ne venaient plus aux losers chercher du boulot, mais certains venaient écouter. Désormais, dans sa maison de Malibu, Engie se souvenait d'eux en train de parler, de raconter leur version du jour où tout avait changé, bien consciente qu'elle tentait, d'une certaine manière, d'associer ses souvenirs, ses récits, avec sa propre histoire et celle de Tessier Hachepoul. Free Jane était le filament, Tessier Hachepoul les strates, sa date de naissance officielle correspondant à celle de ses 19 frères et sœurs clonés. Le questionnement de Baker s'intensifia lorsque Free Jane vit le jour dans une nouvelle mère porteuse, une naissance par césarienne dans la salle de chirurgie de Strelight. Les critiques s'accordaient à dire que Free Jane obsédait Baker. Avec sa naissance, le point de vue du documentaire changeait légèrement, gagnait en intensité, en profondeur. Le péché avait, remarqué plusieurs observateurs, y faisait son apparition. Free Jane devenait le point central, une veine d'or pervers coulant sur le granit de la famille. Non, se dit Angie, argentée, pâle et rêveuse. Lorsqu'il examinait une photographie prise par des touristes chinois de Free Jane et de deux de ses sœurs près de la piscine d'un hôtel de Freeside, Baker revenait toujours sur les yeux de Free Jane, le creux de ses clavicules, ses poignets fragiles. Sur le plan physique, les sœurs sont identiques et pourtant Free Jane a quelque chose de plus. L'œuvre de Baker s'oriente dès lors vers la résolution de ce mystère. Freeside prospère tandis que l'archipel s'étend. Réseau de banques, maisons closes, refuges de données, territoire neutre pour des entreprises en guerre, la tige se met à jouer un rôle de plus en plus complexe dans l'histoire de l'orbite haute, pendant que Tessier Ashpool S.A. s'estompe davantage derrière un nouveau mur, celui-ci composé de filiales. Le nom de Marie-France apparaît brièvement, en lien avec un dépôt de brevet à Genève concernant certaines avancées dans l'intelligence artificielle. Et l'on découvre alors que Tessier Ashpool finance massivement ce champ de la recherche. Une fois encore, la famille prouve son étonnante aptitude à la discrétion en entrant dans une nouvelle période d'obscurité qui s'achève avec la mort de Marie-France. Malgré les rumeurs persistantes évoquant un assassinat, les tentatives d'enquête se heurteraient à la fortune et à l'isolement de la famille, à l'ampleur et à la complexité particulière de leurs liens politiques et financiers. Après son deuxième visionnage du Baker, Angie avait compris qui avait assassiné Marie-France Tessier. À l'aube, elle fit du café dans la cuisine éteinte et s'assit pour regarder le pâle trait de vague. Continuity ?
Bonjour, Angie.
Sais-tu comment joindre Hans Baker ?
J'ai le numéro de son agent à Paris.
A-t-il réalisé quelque chose depuis Antarctique ?
Pas à ma connaissance.
Et cela fait combien de temps ?
5 ans.
Merci.
De rien, Angie.
Au revoir.
Au revoir, Angie.
Baker croyait-il que Free Jane avait causé la mort d'Ashpool ? C'était ce qu'il semblait suggérer sans le dire ouvertement. Continuity ?
Bonjour, Angie.
Le folklore des hackers, Continuity. Quelles infos as-tu là-dessus ? Et que va en penser Swift ? Songea-t-elle. Qu'aimeriez-vous savoir, Angie ?
Le jour où tout a changé. Ce mythe se retrouve sous deux formes. Selon la première, la matrice du cyberespace serait habitée ou peut-être visitée par des entités dont les caractéristiques correspondent au mythe primitif d'un peuple caché. La deuxième postule une omniscience, une omnipotence et une incompréhensibilité de la part de la matrice elle-même.
La matrice serait donc Dieu ?
D'une certaine façon, même s'il serait plus juste en matière de mythe de dire que la matrice possède un Dieu, puisque l'omniscience et l'omnipotence de cet être sont censées se limiter à la matrice.
S'il a des limites,
il n'est pas tout puissant.
En effet. D'ailleurs, le mythe ne confère pas à cet être l'immortalité, comme ce serait normalement le cas dans un système de croyance postulant un être suprême, tout au moins selon votre culture. Le cyberespace n'existe dans la mesure où l'on peut dire qu'il existe, grâce à l'action humaine.
Comme toi.
Oui.
Elle erra dans le salon où les sièges Louis XVI paraissaient squelettiques dans la lumière grise, leurs pieds sculptés évoquant des os dorés.
Si un tel être existait, dit-elle, tu en ferais partie, n'est-ce pas ?
Oui.
Serais-tu au courant ?
Pas nécessairement.
L'es-tu ?
Non.
Cela te paraît impossible ?
Non.
Tu ne trouves pas cette conversation étrange, Continuity ?
Elle avait les joues couvertes de larmes qu'elle n'avait pas senties couler.
Non. Comment les histoires sur... Elle se reprit avant de parler de Loa. les choses dans la matrice s'incorporent à l'idée d'un être suprême.
Elles restent distinctes. Ce sont deux variations sur le thème du jour où tout a changé, toutes les deux très récentes. Elles datent de quand?
À peu près 15 ans.